Contes et lectures. Carlo Ruexeguer.
C'est très court, mais comme on dit, c'est très bon. L'empereur choisit un premier ministre. Il était une fois un empereur qui voulait choisir en qualité de premier ministre le plus sage, le plus avisé de ses sujets. Après une série d'épreuves difficiles, il ne resta en lice que 3 concurrents. Voici le dernier obstacle, l'ultime défi, leur dit-il. Vous serez enfermés dans une pièce. La porte sera munie d'une serrure compliquée et solide. Le premier qui réussira à sortir de là sera l'élu. 2 des postulants, qui étaient fort savants, se plongèrent aussitôt dans des calculs ardus. Ils alignaient des colonnes de chiffres, traçaient des schémas embrouillés, des diagrammes hermétiques. De temps en temps, ils se levaient, examinaient la serrure d'un air pensif et retournaient à leurs travaux en soupirant. Le troisième, assis sur une chaise, ne faisait rien. Il méditait. Ben, tout à coup, il se leva, alla à la porte, tourna la poignée. La porte s'ouvrit et il s'en alla. Deux moines, l'un jeune, l'autre vieux, robe safran, crâne rasé, sandales aux pieds nus, rentrent dans leur couvent un beau soir d'été. « Notre journée a été longue et fatigante, frère Rouchi, » dit le plus jeune. « Mais nous avons bien honoré Bouddha et récolté en mendiant notre comptant de riz et de pièces de cuivre. Le maître nous félicitera certainement. » « Oui, » fait distraitement le moine plus âgé, et il ajoute avec bonté. « Ne soyez pas inquiet, frère Toshibu, le maître apprécie votre zèle. » Les 5 hommes poursuivent leur voyage en silence. Soudain, au détour du chemin, une rivière barre la route. Sur le bas-côté, une jeune femme séduisante aux vêtements coûteux est assise sur une grosse pierre et semble attendre du secours. Ni barque, ni passeur. Le moine plus âgé, avec simplicité, prend la femme dans ses bras et lui fait traverser la rivière sans qu'elle se mouille le bout des souliers. La délicieuse créature le remercie d'un sourire et s'en va. Les 2 moines continuent leur chemin. Long silence. Brusquement, n'y tenant plus, le jeune moine s'écrie « Frère Rouchi, ne savez-vous pas que la règle nous interdit strictement tout contact et tout commerce avec les femmes ?» Le vieux moine poursuit son chemin sans répondre. « Frère Rouchi, dit le jeune moine qui s'échauffe, comment avez-vous pu porter dans vos bras une femme belle et parfumée et lui faire traverser la rivière ?» « Frère Toshibu, dit le vieux moine, serait-ce que vous sentez encore le poids de cette femme ?» Il y a pourtant longtemps que nous l'avons laissé derrière nous. Le crapaud vert. C'était un jeune crapaud, à peine 2 ans, en adolescent. Que sait-on encore à cet âge? Un petit amphibien d'une gracieuse couleur verte à la peau gentiment grumeleuse. « Verruqueuse, grommela papa crapaud, soyons précis, je vous prie. »« Mon fils, dit vivement maman crapaud, croyez-moi, vous êtes beau, le plus aimable, le plus galant, le prince charmant de tous les petits crapelets. Sans doute sautez-vous moins loin que votre cousine la grenouille, mais vous êtes plus utile au jardin. Je suis fier de vous. » Ainsi lesté de confiance, le jeune crapaud sortit un soir d'été de dessous la grosse pierre familiale et s'en alla se promener. Il dressait avec orgueil sa tête aplatie et regardait le monde inconnu en levant haut les lourdes paupières. Il faisait chaud. La nuit était douce et belle. Une délicieuse petite fille le rencontra dans la grande allée. Elle poussa un cri. « Oh ! Quelle horreur ! Un crapaud !»« Mon Dieu qu'il est laid !» dit sa mère. Elle le repoussa du pied. Par réflexe, le jeune crapaud se couvrit d'urine protectrice. « C'est vraiment une créature ignoble !» fit la mère. Elles s'éloignèrent toutes deux, en reniflant de dégoût. Il était une fois une atroce belle-mère, comme il n'en existe que dans les contes. Injuste, revêche, cruelle. Elle avait accueilli de mauvais gré l'épouse principale que son fils avait choisie. Anchi, pourtant, était belle, trop peut-être au goût de la marâtre. Fille d'enseignant de la cour qui avait par malheur déplu à l'empereur et encouru sa disgrâce, la noble enfant avait dû se marier avec un fonctionnaire besogneux. Elle gardait maint trait de sa splendeur passée, sa longue chevelure, la délicatesse de ses façons, la grâce de sa silhouette, le nacre de ses joues, l'élégance de son maintien. Mais l'odieuse belle-mère n'en avait cure. Elle accablait sa bru de tâches ménagères, cuisiner, laver, balayer. La malheureuse travaillait sans répit tout le long du jour et ne recevait pour loyer que des paroles blessantes. « Tu n'es pas ici à la cour, vociférait la harpie. Tu as été bien heureuse d'épouser mon fils, bonne à rien, prétentieuse, impudente. » Anchi se taisait. À l'époque de Heian, le code japonais dans le chapitre des foyers indiquait les différents motifs qui justifiaient la répudiation d'une épouse, c'est-à-dire son déshonneur, sa mort sociale. Les deux premiers, la stérilité et l'adultère, le troisième qui nous intéresse ici. Le manque de piété filiale à l'égard des beaux-parents. Cette clause plaçait en fait la jeune épousée à la merci de sa belle-famille et de sa belle-mère en particulier. Notons, pour mémoire, trois autres motifs de répudiation qui laissent songeur. La jalousie. Rappelons que le mari, en sus de l'épouse principale, avait, selon sa fortune et son rang, plusieurs épouses secondaires, des concubines à discrétion, ce qui n'excluait pas les visites régulières aux courtisanes. Pourquoi sa femme aurait-elle été jalouse? En effet, le bavardage inconsidéré. Il est bien connu qu'un homme parle, explique, discourt, et qu'une femme babille, potine, caquette. La maladie, enfin. À quoi peut bien servir une femme malade? Autant s'en débarrasser. Un jour, la belle et malheureuse Anchi cuisait le riz du repas familial quand sa belle-mère se mit en colère contre elle, sans raison valable. La belle-fille parut ignorer ses cruelles paroles, mais soudain elle retira du feu un morceau de bois enflammé et le lança violemment par la fenêtre. Il tomba par hasard sur un mouton qui passait et mit le feu à sa toison. Le mouton affolé courut droit devant lui et se jeta sur une meule de paille qui s'enflamma. Parce que ce jour-là, le vent était très fort, le feu gagna les étables et les écuries. Des bovins et des chevaux sauvages s'échappèrent et dans la bousculade détruisirent la maison d'un voisin. Celui-ci, un homme vindicatif, chercha querelle au propriétaire des chevaux, et ainsi, de proche en proche, de village en village, de province en province, la guerre s'étendit comme un feu de broussaille et ravagea tout le pays. Voilà ce que peut engendrer la méchanceté d'une seule belle-mère. Ainsi a-t-il été rapporté des choses du passé.
Contes et lectures. Carlo Ruexeguerre.